C'est parti, à nouveau en direct de Lire au Lac, la bibliothèque de Charavine, qui nous accueille une fois plus avec le soutien de Myriam Péchu, qu'on remercie. On va passer près d'une heure ensemble en compagnie de Laurent et de 1961, qui suis arrivé du premier coup. Bien le bonjour à toi.
Bonjour, bonjour à tous.
Une heure d'émission, on va parcourir votre passé, le présent et l'avenir, sortir la boule de cristal et essayer d'envisager la suite. Alors avant de partir déjà dans trois quarts d'heure, on va s'attacher au présent. Si tu veux bien, et je vais baisser le tapis qui nous accueille, c'est Jess and West qu'on avait reçu ici dans un titre qui s'appelle Mama Calls Me Back, et le mettre un peu plus bas pour qu'on s'entende un petit peu mieux. Voilà, c'est parfait. Alors, si tu veux bien te présenter à nos auditrices, nos auditeurs, et puis ensuite, on va dérouler une série de questions, on va dire, autour de ce programme du passé, du présent et de l'avenir, en se laissant porter par ce qu'on se raconte.
Avec plaisir. Alors, moi, je m'appelle Laurent Parins. Je suis le claviériste du groupe 1961 Project, qui est un groupe qui est né pendant le confinement, effectivement, d'un projet et qui est aussi la renaissance d'un projet antécédent entre deux musiciens, c'est-à-dire entre moi-même et puis Vincent Debimard, qui est l'auteur-compositeur qui écrit toutes les chansons du groupe. Donc Vincent a l'habitude d'arriver avec des propositions de chansons, des fois bien terminées, c'est-à-dire il a déjà pas mal d'idées d'arrangements, il fait de la programmation de batterie, il va faire la basse, il va jouer tous les instruments, donc il va même avoir des suggestions pour les synthétiseurs. Et sur cette base-là, eh bien, on travaille tous ensemble, en y mettant notre patte pour arriver aux chansons finales.
Alors, cette rencontre qui est liée à un contexte très particulier, quel contexte que tu as rappelé du Covid, comment elle s'est faite concrètement? Est-ce qu'elle s'est faite physiquement, à distance? Comment vous avez procédé à cette rencontre? Qu'est-ce qui a fait le lien finalement?
Alors, c'est vrai que c'était compliqué de se rencontrer. Hein. On n'a pas forcément été dans la stricte légalité, je pense qu'on peut le dire. Cependant, on a aussi beaucoup utilisé, bien évidemment, comme beaucoup de musiciens pendant cette période-là, les moyens de dématérialisation en travaillant de manière autonome, chacun de notre côté. Les batteurs, par exemple, en programmant ses lignes de batterie. On proposait les fichiers de travail. On travaillait tous plus ou moins sur les mêmes logiciels, donc les mêmes stations de travail sur ordinateur. Donc, c'est très facile de s'échanger des projets. Voilà, est-ce que je peux en dire? Donc c'était et puis bien évidemment il y avait quand même c'était quand même nécessaire de se rencontrer, et là on se faisait des soirées en fait où on mettait un grand coup en se concentrant sur une chanson en particulier pendant toute cette période qui était un peu floue pour tout le monde, hein, de toute façon, où on ne savait pas du tout à quel moment on allait pouvoir vivre différemment, retrouver quelque chose de normal. Et du coup, l'idée, c'était d'emmagasiner des chansons et de continuer à travailler dans cette dynamique.
Alors, si on peut se donner cette liberté d'ouvrir un chapitre que tu nous proposes ici, c'est-à-dire à la fois presque le constat que cette rencontre elle aurait pu se faire dans ce contexte-là, avec des musiciens aux quatre coins du monde, et à la fois la nécessité de se retrouver et de vivre les choses les uns avec les autres, en présence des uns et des autres.
Ouais, c'est bien que tu dis ça, parce qu'il y a une dimension qui est très importante pour nous. On est vraiment des amis, en fait. On s'aime vraiment beaucoup. On est tous les quatre à la fois très différents et très complémentaires. On a tous des dimensions qui font que quand il y a quelque chose à faire, il y en a tout le temps un qui dit « moi, je vais le faire ». Et en fait, les trois autres savent que « ouais, c'est lui qui le fera bien, quoi ». C'est peut-être pour ça que je me retrouve là ce soir, j'en sais rien. Enfin, pas ce soir, on est dans l'après-midi, mais ça, c'était pas prévu. Normalement, on aurait dû être tous les quatre. Bref, ça, c'était involontaire de notre part. Mais par exemple, moi, comme je le disais tout à l'heure, j'ai cette dimension audiovisuelle. Du coup, tout ce qui est production de son et d'image, eh ben, c'est ma partie. On a Maxence, qui est le batteur du groupe. Alors lui, c'est un commercial né. C'est un gars, il a passé plusieurs années de sa vie à faire du commerce de batterie entre le Brésil et l'Europe. Donc de batterie et de basse. Donc il partait, il avait ses luthiers et autres fabricants d'instruments qui étaient au Brésil, qu'il affectionnait particulièrement. Et son métier, c'était ça, c'était vraiment ça, c'était d'importer ses instruments et de les revendre. Il a fait ça pendant, je vais dire une bêtise si je dis un nombre d'années, mais pendant de nombreuses années quand même. Donc voilà, le commerce, C'est-à-dire comment vendre les concerts, penser à tout ce qu'il faut penser, par exemple. Voilà, ça c'est vraiment Maxence. On a la chance d'avoir un super songwriter, parce que Vincent qui écrit donc les chansons, Vincent de Newmark écrit les chansons, bah, il écrit des super chansons. Donc ça c'est vraiment, vraiment une chance, parce qu'on est tous musiciens, mais on n'a pas tous on n'a pas tous ce truc d'écrire des bonnes chansons, il faut le dire. On a tous écrit des chansons, hein. Je pense que dans les quatre, on écrit tous des chansons. Mais voilà, Vincent, il a vraiment un truc. Et moi, j'adore ce qu'il fait. Voilà, ça c'est... Et puis ensuite, on a Pierre. Et Pierre, lui, et c'est un... il a été pendant 17 ans ingénieur du son. Et tout ce qui est technique, c'est vraiment le référent. Il est d'une compétence qui à chaque fois m'impressionne. Parce que je sais que tout ce qu'il dit, il a raison, en fait. Ça marche. Ça marche du premier coup. Et ça, c'est vraiment une ressource qui a beaucoup de valeur.
Alors, le petit détour heureux qu'on peut faire vis-à-vis de ce que tu nous décris, de cette dynamique de groupe, cette camaraderie qu'on retrouve aussi. Tu as parlé du Brésil. Moi, j'invite d'inviter les auditeurs et les auditrices aussi à se plonger dans la poésie brésilienne et la beauté de ses cordes. Tu parles des basses et de la guitare au Brésil, le travail de Chico Buarque, de Gilberto Gil, de João Gilberto et de toute une série de musiciens brésiliens qui, dans le contexte des années 60 et de difficultés qui étaient liées à des positions politiques au Brésil, qui a repris une place avec Bolsonaro et dans les discussions qui ont lieu aussi avec Lula entre la population brésilienne et le contexte du Brésil actuel. La place qu'occupe la musique au Brésil, ce n'est pas que la samba, ce n'est pas que la fête, c'est aussi la poésie, les textes, un certain engagement, et ça me permet d'en parler pour nos auditeurs et nos auditrices qui ne connaissent pas forcément ces musiciens, et de rentrer dans cette poésie qui est incarnée aussi par des musiciens aujourd'hui comme Chico César, qui ont une grosse pensée pour l'Afrique et les circulations, les migrations successives qui sont présentées au Brésil, que ce soit la traite négrière, l'histoire du Portugal, l'idée dans la musique brésilienne au sens le plus large, qui est l'idée de la saudade, c'est-à-dire ce sentiment de la tristesse heureuse qu'on retrouve très peu dans la musique européenne, qu'on traduit un peu de ma main droite, qui est l'idée de la mélancolie, d'un passé très loin, nostalgique, presque une vision assez négative et passéiste, qui est traduite de manière beaucoup plus heureuse au Brésil, à travers l'idée de cette saudade, c'est la tristesse heureuse, l'évocation du passé au présent. Voilà, un petit détour heureux que tu nous proposes à travers la camaraderie que nous a décrit.
Tu en parles très bien, en tout cas.
Bah, en tout cas, c'est modestement, c'est une proposition voilà, que j'envoie aux auditeurs et aux auditrices pour se plonger dans l'histoire de votre groupe, mais aussi faire un clin d'œil au Brésil et à la réalité quotidienne des Brésiliens et des Brésiliennes, qui n'est pas toujours heureuse, mais à travers la musique qui devient voilà. Heureuse. Et c'est aussi un message, je crois, que vous faites passer à travers votre travail de composition et de travail de camaraderie. Alors, cette relation justement entre copains, j'imagine qu'elle crée une complicité. Comment elle a pu se développer? Ce qu'elle s'est faite autour de la musique, du plaisir de jouer ensemble, du plaisir de boire des bières ensemble? Je sais pas qu'est-ce qui a fait le lien.
C'est vrai que c'est un peu tout ça. C'est un sacré coup de loto parce que tous les quatre, on est tous musiciens depuis de nombreuses années, bien évidemment. On a tous eu de nombreux projets. Et force est de constater, c'est que moi, si je parle que de moi, en quelques mots, je pourrais dire que je mets beaucoup d'implication dans la création de mes projets, dans la composition des morceaux, dans leur arrangement, etc. Jusqu'à, bien évidemment, le travail nécessaire pour apprendre les morceaux. Et souvent, ce que j'ai constaté, c'est que malheureusement, quand tout est là, il y a un effet du destin qui fait que le machin tombe en déconfiture et ça s'arrête. Et j'ai vécu ça de nombreuses fois. Alors, j'essaie de me relever différemment, par exemple, en disant « je ne travaille plus que tout seul », ce qui n'était pas forcément la meilleure des idées. Mais par exemple, j'ai essayé ça. Ou simplement de vivre à chaque fois un petit peu comme des déceptions amoureuses. C'est parfois très douloureux, quoi. Il y a vraiment, parce qu'il y a un gros investissement. Et d'ailleurs, ça me permet de revenir à la genèse du groupe, cette remarque-là, puisque c'est ce qui s'est passé. Effectivement, il y a un autre groupe voironnais qui a sa petite notoriété, qui s'appelle Piper Jelly. Et nous étions entre 2018 et 2020. C'est ça. Vincent de Mimard, guitariste-chanteur, et moi-même, claviériste bien de ce groupe. Et puis, une mésentente entre Vincent et le fondateur de Piper Jelly a fait que Vincent est sorti du groupe. Et moi, j'aimais tellement Vincent que je lui ai dit « Écoute, si tu remontes quelque chose, fais appel à moi. N'hésite pas à m'appeler. » Et il m'a appelé très, très rapidement. Et en fait, en parallèle de mon histoire avec Piper Jelly, qui se terminait quand même, parce qu'il y avait d'autres tensions qui faisaient que moi, je n'y trouvais plus ma place, eh bien, nous avons monté ce projet-là. Voilà.
Alors comment on va resserrer, si tu veux, vis-à-vis du groupe aussi, la place que tu occupes au sein de ce groupe. En tant que clavériste, on s'intègre à une identité musicale. Le synthétiseur, le clavier a fait largement sa place au cours des années 70-80 dans la musique européenne, sous l'influence de la Motown ou de grands labels, ou plus largement de la pop, de la disco, du funk et de différentes musiques, et du jazz entre autres, oui, on pense à Herbie Hancock et plein d'autres. Comment toi tu t'es intégré du coup à ce projet au niveau de la pratique du clavier, et par quelle recherche aussi, on va dire, esthétique, est-ce que c'est passé par des sons en particulier?
Alors, c'est vrai que moi, d'abord, j'étais pianiste, pas très bon pianiste, mais pianiste, on va dire. C'était mon instrument, c'était le piano. Et assez rapidement, à la découverte de la musique synthétique numérique, donc assistée par ordinateur, j'ai découvert, j'ai compris les mécanismes qui permettaient de créer les sons, puisque les synthétiseurs numériques fonctionnent d'une façon similaire aux synthétiseurs analogiques. Eux ne nécessitent pas d'ordinateur. Et j'ai créé, donc à l'aide d'un ordinateur, un espèce de gros instrument avec plein de claviers, plein d'ordinateurs, plein de pédales, qui était quand même assez compliqué à faire marcher, et surtout qui était assez fragile, parce que dès qu'il faisait trop chaud, ça ne marchait pas, trop froid, ça ne marchait pas, enfin voilà, il y avait quand même des contraintes aussi. Mais en fait, ça m'a appris les fonctionnements, et j'ai vraiment trouvé mon style là-dedans. J'ai dit, mais ça c'est la musique que moi j'ai à l'intérieur, c'est ce que je peux servir dans un groupe. Et il y a eu cette rencontre avec Ishrat Manoudian, qui est le fondateur du groupe Hyper Jelly, qui lui avait lu aussi cette culture du synthétiseur. Et là, il y a une vraie rencontre, c'est-à-dire que toutes les idées qu'il avait, je savais les faire. Donc tout ce qu'il proposait, je le faisais. Et jusqu'à la rupture du groupe, mais ça m'a permis de façonner, de terminer mon processus de création d'instruments, puisque pendant ce groupe-là, je suis passé à l'analogique. C'est pour ça que j'ai insisté un petit peu au début de mon propos sur le numérique, donc je le rappelle, c'est vraiment l'ordinateur, on utilise un ordinateur pour faire du son, et au fur et à mesure de mon processus créatif, j'ai supprimé l'ordinateur pour ne venir que sur des instruments analogiques, c'est-à-dire qu'ils font du son par eux-mêmes.
Voilà. Bien qu'ils soient amplifiés.
Bien qu'ils soient amplifiés, oui. Ils font du son. Si vous voulez, ouais, c'est ça. Le son est produit effectivement par des transistors. Alors, je n'ai pas rentré, d'ailleurs, j'en serais bien incapable, sur la production même, mais par des oscillateurs qui créent du son et qui passent à travers des filtres, des modulations qui font qu'on obtient les sons de synthétiseurs modernes. Et puis aussi, j'ai eu la chance de pouvoir acquérir deux super instruments qui me permettent aujourd'hui d'avoir une palette très vaste de tout ce que j'ai envie de faire. Avec ces instruments, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais trouvé la limite de ne pas arriver à faire un truc que je voulais faire. Et ça, c'est vraiment génial.
Et puis, on peut le dire, dans le contexte, il est plus relativement récent parce qu'il a passé le stade des années 70, puis 80, puis 90, puis 2000, puis 2010, puis 2020. Et on est aujourd'hui en 2023, donc c'est plus véritablement récent que de pratiquer la musique avec les ordinateurs. Mais dans l'histoire de la musique, c'est relativement récent.
C'est vrai.
Ce que ça a permis aussi de révolutionner, c'est tout ce que tu décris, c'est d'aller à la découverte du son, au-delà de la musique, et de sons nouveaux.
Et puis, à moindre coût. Puisque un ordinateur, c'est cher, certes, mais c'est bien moins cher que plusieurs synthétiseurs séparés. Il y a même moi, je travaille avec Logic Pro, par exemple, qui est donc la suite de musique assistée produite par Apple, qui propose un programme parallèle à Logic Pro qui s'appelle Mainstage, et qui donne accès à tous les synthétiseurs numériques et de la suite d'Apple, et de tous les synthétiseurs numériques qui sont proposés d'autres éditeurs. Et là, ça donne un accès vraiment quasi infini aux possibilités sonores.
On va citer deux autres éditeurs pour le CSA. Adobe Audition qui permet modestement de faire des choses intéressantes. Pro Tools aussi qui permet carrément de gommer les sons et les impuretés.
Carrément, ouais.
Il y a des outils aujourd'hui ultra performants.
Et je pensais, quand j'ai dit éditeur, moi je pensais plutôt... c'est vrai que c'est toutes les stations de travail... sont la base pour produire la musique, mais il y a aussi les je pense par exemple à Native Instruments, je sais pas pourquoi j'ai eux qui viennent à l'esprit, mais qui proposent des synthétiseurs numériques qui se configurent comme étant des plugins dans la station de travail, et voilà, c'est donner un accès, une liberté, une créativité assez illimité.
Une musique complètement fêlée. Ouais, je fais un clin d'œil heureux ou pas à un titre qui est plutôt à consonance anglo-saxonne, qui s'appelle peut-être Feller.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? On va l'écouter pour marquer une pause avant de revenir sur le présent.
Avec plaisir, ouais.
Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce travail peut-être de composition?
Alors, bon, ça c'est une chanson de Vincent, donc ce serait probablement le mieux à même d'en parler. Feller, c'est l'histoire d'un gars qui se rend compte que ben il est seul sur la planète, quoi. Tout le monde est mort et il se retrouve le dernier gars sur la planète. Am I the only Feller? Est-ce que je suis le dernier gars à être resté là? Et Vincent a souvent ses regards un petit peu dystopique, c'est ça le mot, hein, c'est ça, un dystopique sur une forme de pas de science-fiction, mais d'anticipation, effectivement, des progrès de l'humanité, enfin des progrès ou pas de l'humanité, quoi. Et du coup, cette chanson, elle était inspirée de ça. C'est vraiment ça, et c'est vraiment le regard qu'il avait sur lui-même en tant que dernier survivant de l'espèce humaine, et de se dire bon ben voilà. Ça pourrait avoir une allure assez désespérée, mais en fait, c'est plutôt dans son intention, c'était plutôt de remettre en question et de se dire attention, les gens, on est en vie là, et tout ce qui nous touche est super important. Et c'est pour ça que cette chanson, si vous l'écoutez, d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire, en fait, elle a un refrain qui est très entraînant et très joyeux, parce qu'en fait, l'énergie du morceau, c'est vraiment ça, quoi, c'est la vie.
So let's go, we are on air with 1961 with Feller. Thank you.